pays. Paysan. Paysage. Un tour au musée de la Chalosse.
Installé dans un écrin de verdure sur le site du domaine de Carcher à Montfort-en-Chalosse, le musée de la Chalosse vous fait découvrir l'autre visage des Landes, celui plus vallonné, plus fertile que les Landes de Pins au nord de l'Adour. Un pays qui, pour certains, est le véritable jardin secret des Landes, la Chalosse. Marquée par un paysage spécifique et une histoire singulière, la Chalosse se raconte à travers son musée, mais se découvre aussi au fil de ses territoires. Dans cette émission, tous les mois, nous reviendrons sur les recherches actuellement en cours autour du thème de l'exposition 2020 du musée de la Chalosse, des bars et des histoires. Avec la complicité du collectif artistique du Demi-Tour de France, des membres du comité scientifique de l'exposition et de l'équipe du musée, on évoque ensemble la Chalosse d'hier et d'aujourd'hui. Très vite après leur apparition, les auberges, tavernes et cabarets ont été encadrés, notamment par la mise en place de licences. Mais au-delà de la question des tapages et autres délits dont nous avons retrouvé de nombreuses traces dans les archives judiciaires du département des Landes, les débits de boissons sont associés à la démesure et à l'ivresse. Aujourd'hui, on se pose cette question de l'ivresse.
Des tours, des détours, un demi-tour en Chalosse.
Bon, vous savez, à cette époque-là, il y avait aussi, une fois que c'était que la journée était bien arrosée, il y en a qui avaient de petites faiblesses. Bon, et un jour, il y a un client qui n'était pas venu chez moi de la journée, et qui est arrivé là en retard, et alors il a eu une faiblesse, il y a les voisins qui l'ont installé sur un perron là, chez Darico, et alors il s'est endormi. On a appelé les gendarmes, disant qu'il y avait enfin sur la voie publique, etc., etc. Les gendarmes sont arrivés et ils l'ont amené à la gendarmerie. Bon. Et le lendemain, le gendarme me dit, je pourrais vous faire fermer le bistrot. Ah, et pour quelle raison? Nous avons ramassé hier un homme sur la voie publique. Il n'avait pas, c'était pas, il fallait pas le laisser là. Je lui ai dit, écoutez, cet homme n'a pas mis les pieds chez moi de la journée, ce qui était vrai en plus. Il est arrivé chez nous, je lui ai dit, il était plein, c'est comme ça qu'on parlait. Oui. Et puis si on l'a mis là, moi je ne m'en suis pas occupée, et il n'a pas mis les pieds chez moi. Mais ils l'ont amené à la prison. Bon, ils l'ont amené à la prison, où il a passé la nuit. Évidemment, il a été dérangé dans la prison, il est arrivé quelque chose. Le lendemain, le chef de gendarmerie arrive. Madame Kamescas, je vais vous faire payer une amende. Pourquoi? Vous avez votre client là, il m'a chié dans la prison. Ouh! Je dis, il a bien fait. Alors là, et alors? J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il a fallu que je nettoie. Mais ça fait rien. Alors, au bout d'un moment, c'est le bonhomme qui sort de prison et qui vient. Il me dit, tu es une vieille garce. Une vieille garce. Tu m'as envoyé en prison. Alors je lui dis, ce n'est pas moi, hein. Ce n'est pas moi. Parce qu'il était méchant en plus, celui-là, quand il était plein.
Oh mais.
Oui. Et alors bon, ça s'est arrangé. Oui. Et une autre fois, lui, il était venu aussi à la foire. Il avait perdu son vélo. Il ne savait pas où il l'avait mis. Bon, je cherche le vélo. Bon. J'ai dit à un bonhomme qui était là, je lui dis, puisque tu es là, toi, tu peux aller le raccompagner. Et alors, bon, il lui dit d'accord. Bon, très bien. Le lendemain matin, le bonhomme qui avait bu, il avait chez moi, il me dit, mais tu es une vieille garce, tu m'as envoyé quelqu'un pour me ramener chez moi. Il m'a volé le portefeuille. J'avais vendu un veau, j'avais de l'argent, je n'ai plus d'argent. Il m'a volé le portefeuille. Comment, il t'a volé le portefeuille? Oui, il m'a volé le portefeuille. Bon, attends, on va l'appeler. Je l'appelle à ce garçon chez lui, je lui dis, tu viendras parce qu'il y a un petit litige ici, il va falloir mettre les choses au point. Il arrive, le jeune, je le connaissais le jeune, alors je lui dis, voilà ce qui se passe, il paraît que tu as volé l'argent là. Alors il dit au monsieur là, monte dans la voiture, on va aller chez toi. Ils arrivent chez lui, il tombe sur la femme. Alors le chauffeur dit, voilà, il paraît que j'ai ramené monsieur et il paraît que je lui ai volé le portefeuille. Alors la femme lui a dit, non, tu ne lui as pas volé le portefeuille, c'est moi qui l'ai le portefeuille. Et il est plein. Voilà, alors ça s'est arrangé. Vous voyez, si ça n'est pas passé des trucs.
Ah bah.
Et oui, et pourtant. Et non d'un chien, non d'un chien. Et oui.
Et encore, ça c'est ce que vous racontez.
Oui, voilà.
Oui.
Je pense que vous nous cachez...
Oui, beaucoup de choses.
Beaucoup de choses.
Vous êtes bien dans l'émission Pays, paysans, paysages sur le 93.8 Chalosse-Tursan.
Alors bonjour Nicolas Cagne, vous êtes géographe, auteur de la thèse sur les cafés bretons, la ruralité au comptoir et membre du comité scientifique de l'exposition.
Le coin des historiens.
Oui, bonjour Marie.
Alors, le thème de cette émission, c'est l'ivresse et l'alcoolisme au café. Alors, première question, est-ce qu'on a toujours réprouvé l'ivresse ?
Alors, à la fin du Moyen-Âge, l'ivresse et l'ivrognerie, comme on dit à l'époque, sont de plus en plus dénoncées par le clergé, ce qui coïncide avec sa volonté d'encadrer plus étroitement les conduites de ses fidèles et de réprimer les loisirs profanes. Vous avez toute une pastorale chrétienne qui donne alors une large place au thème de l'enivrement. Pourtant, le vin est un puissant symbole eucharistique. Donc pour l'Église, ce n'est pas la consommation en tant que telle qui pose problème, mais c'est l'excès. L'excès qui est considéré comme une extension du péché de gourmandise. Alors d'autant qu'une fois ivre, l'homme n'est plus complètement homme, il perd une partie de sa raison, il voit ses sens altérés, son âme obscurcie. Et le risque est grand, une fois enivré, de tomber dans la colère, la violence et l'obscénité. Dès lors, les cabarets et les tavernes, qui sont les théâtres principaux de l'ivresse, sont dépeints comme des églises du diable. Mais les réprimandes des curés restent vaines. La population est, de façon générale, plutôt complaisante envers l'individu enivré. D'autant que les pouvoirs civils, eux, ne soutiennent pas vraiment le clergé sur ce point. L'objectif des autorités politiques, ce n'est pas de normaliser les comportements des fidèles, mais c'est plutôt, et c'est même surtout, le maintien de l'ordre public. La boisson échauffe les esprits, elle conduit à la violence, aux rixes, voire aux homicides, et en plus, les tavernes sont des lieux où se réunissent les marginaux et les criminels. Ainsi, les textes qui réglementent les débits de boissons sont généralement guidés par cet objectif de maintien de l'ordre. Plus tard même, au XVIIIe siècle, va s'ajouter une autre considération. Les débits sont considérés comme des menaces politiques. Le pouvoir royal installe des mouchards dans les rues, mais aussi dans les débits de boissons, pour recueillir l'opinion et anticiper toute manifestation des mécontentements.
Alors oui, mais pour revenir à la question de l'ivresse, on ne parle pas encore d'alcoolisme, enfin pas avant un petit moment.
Non, parce que pour cela, il faudrait que l'on ait un regard médical sur la consommation d'alcool. Or, sous l'Ancien Régime, le vin est considéré comme un remède médical. Et c'est à partir du XIXe siècle que cette notion d'alcoolisme va apparaître dans un contexte d'augmentation dramatique des cas de malades associés à la consommation d'alcool. Et au départ, les discours des élites qui s'élèvent contre cette consommation sont des discours moralistes. Le cabaret est décrit comme un lieu de débauche des classes populaires, comme le facteur principal de la pauvreté des classes populaires. On a affaire à un spectacle de l'ivresse qui choque de plus en plus l'œil du bourgeois. Mais dans le même temps, les travaux de quelques médecins, notamment un médecin suédois, mettent au jour le fait que la consommation d'alcool conduit à des pathologies que l'on nomme alcoolisme. D'accord. Et donc progressivement, on va avoir un regard médical sur la consommation d'alcool. L'alcoolisme est alors considéré comme un fléau social, et après la défaite de 1870, défaite qui est d'ailleurs considérée par les élites de l'époque comme due notamment à la consommation d'alcool, donc après cette défaite, va se structurer un mouvement anti-alcoolique. Donc ce mouvement anti-alcoolique français, eh bien, parmi ses membres, c'est l'élite dirigeante en réalité, oui. Ce qui lui permet d'avoir une grande influence au Parlement. Donc l'alcoolisme fait son entrée dans les débats parlementaires dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec notamment la première loi d'envergure, qui est la loi sur la répression de l'ivresse publique manifeste, en 1873. Alors ensuite, d'autres lois vont suivre, notamment sur la fiscalité de l'alcool, sur la possibilité même donnée aux maires de fixer des périmètres d'interdiction d'installation des débits de boissons autour de certains édifices, comme les églises, les écoles, les hôpitaux, mais ce sont des mesures qui sont relativement inefficaces face à la montée des débits de boissons, notamment parce qu'il y a une pression importante du lobby des alcooliers en France.
Mais donc en fait, la réglementation récente en matière de débit de boissons, elle est finalement très liée à la question de la lutte contre l'alcoolisme.
Oui, d'ailleurs c'est intéressant puisqu'en 1940, la défaite française va réactiver les discours moralistes à l'égard de l'alcool qui va être considéré comme un péril national. Vous avez le maréchal Pétain qui va déclarer d'ailleurs à la radio en août 40 que l'alcoolisme est, je cite, « en train de détruire notre race ». Donc il s'agit de redresser le pays sur le plan moral, à l'aide notamment d'un ensemble de textes répressifs qui constitueront d'ailleurs le socle sur lequel repose la réglementation contemporaine applicable au débit de boissons. Alors à la sortie de la guerre, les promoteurs de l'anti-alcoolisme vont rester influents. Par exemple, Robert Debré va prendre la présidence d'un haut comité d'études et d'informations sur l'alcoolisme, qui va jouer un grand rôle dans l'élaboration des textes réglementaires qui seront ensuite regroupés dans ce fameux code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. On voit bien, hein, dans le titre même de ce code, la préoccupation majeure des autorités sur le sujet des cafés, c'est bien lutter contre l'alcoolisme. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce code ? Bien, vous avez d'abord le système des licences de vente d'alcool, les licences 1, 2, 3, 4, le classement des boissons en plusieurs groupes. Vous avez également des limitations géographiques d'installation de nouveaux débits de boissons. Je donne un exemple, hein, jusqu'en 85, on ne pouvait pas ouvrir de nouveaux cafés dans les grands ensembles d'habitations, les banlieues, pour les préserver probablement hein, de l'influence néfaste des cafés. Donc ce code, aujourd'hui, il est intégré au code de la santé publique.
Et oui, et il n'est plus dans la sphère du maintien de l'ordre public qui présidait plutôt à la répression au XIXe siècle. Et alors, est-ce que ce combat contre l'alcoolisme explique, comme on l'entend souvent dire parmi les témoignages et parmi les échanges que nous, on a pu avoir sur le terrain avec les cafetiers, est-ce que ça explique la régression des cafés au XXe siècle ?
Alors, il est évident que ces mesures qui sont liées à la lutte contre l'alcoolisme ont eu des effets sur le nombre de cafés dans la deuxième moitié du XXe siècle, ne serait-ce que parce que le nombre de licences 4, c'est-à-dire celles qui permettent de vendre toutes les catégories de boissons, bien ces licences 4, ce nombre est contingenté, c'est-à-dire qu'on ne peut plus créer de nouvelles licences. Oui. Et en plus, ces licences périment de façon définitive au bout d'un certain temps de non-exploitation. Donc nécessairement, cette simple mesure ne peut avoir qu'un effet négatif sur le nombre de cafés. Alors quelques mots tout de même sur la diminution du nombre de cafés. D'abord, elle est difficile à évaluer pour de nombreuses raisons, notamment liées aux catégories statistiques qui sont prises en compte et qui évoluent au cours pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Mais en tout cas, c'est vrai que la tendance à la baisse est incontestable. On sait par ailleurs que l'ensemble du territoire est touché, les villes comme les campagnes, mais plus encore les communes rurales, à la fois quantitativement, chute des effectifs, et qualitativement, puisque pour de nombreuses communes rurales, c'est la perte d'un équipement commercial de base. C'est d'autant plus regrettable d'ailleurs que les campagnes connaissent globalement, alors à quelques exceptions près, hein, un regain démographique, voire sont reconquises même par les services aux particuliers, comme les salons de coiffure, les agences immobilières ou la restauration rapide par exemple. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette crise des cafés ? D'abord, il est vrai que l'activité est étroitement dépendante des réglementations. La vente d'alcool est encadrée, on l'a dit. La vente de tabac également. Vous avez des politiques de lutte contre le tabagisme, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les nombreux contrôles d'alcoolémie sur les routes. Et on le voit d'ailleurs également en ce moment avec le confinement ou les couvre-feux. Et ces arguments qui sont liés à la réglementation, ce sont ceux que les syndicats et les professionnels du secteur mettent régulièrement en avant. Néanmoins, ils reconnaissent que le café, tel qu'il existait il y a un demi-siècle, ne peut plus répondre aux exigences nouvelles de la société contemporaine. Car, c'est vrai, On est entré dans une société de consommation, dans une civilisation du loisir, ce qui a participé d'une redéfinition des fonctions du café au sein de la société. Les cafés sont entrés en concurrence avec de nouvelles formes de loisirs, le cinéma, le théâtre, les discothèques, les festivals, le sport, etc. L'augmentation du temps libre et la croissance de la mobilité favorisent la mise en concurrence des différents loisirs et aussi la mise en concurrence des cafés entre eux, c'est-à-dire qu'on peut davantage choisir son café en se déplaçant plus loin si on le souhaite. Et dans les campagnes, d'ailleurs, hein, les transformations de la société ont peut-être été plus fatales encore pour les cafés, puisqu'on se rend compte que les festivités locales qui avaient généralement lieu dans les cafés se déroulent désormais dans soit des espaces privés, soit les salles des fêtes municipales.
Alors, bon, quel serait finalement l'avenir des cafés, s'ils peuvent encore en avoir un ?
Bien sûr, il y a eu une prise de conscience de ces difficultés par les professionnels du secteur, les syndicats, etc. Et vous avez en plus un renouvellement de la profession qui se réalise. Progressivement, on voit s'installer derrière les comptoirs une génération qui a d'autres aspirations, d'autres modèles de vie, et surtout qui a bien compris ce qui l'attend. Puisque les clients ne viennent plus d'eux-mêmes, il faut les faire venir et tenter de les fidéliser. Et pour cela, vous avez des cafés qui se renouvellent, qui adoptent de nouveaux styles, des concepts, des bars à thème, etc., afin de se différencier. Et en ce sens, les nouveaux cafetiers ont parfaitement intégré les recettes du marketing actuel. Alors l'accent est aussi mis aussi souvent sur la qualité du service offert et en milieu rural sur la diversification des activités. Ainsi, la renaissance des cafés est peut-être en cours. En tout cas, d'un point de vue qualitatif, ça paraît évident.
Et rassurant, et ça fera aussi l'objet d'une prochaine émission, cette manière de se reconvertir et de faire vivre ou revivre au profit des sociabilités dans les villages et à la campagne, ces cafés d'autrefois, d'une autre manière. Ça, on le verra avec d'autres partenaires. Merci beaucoup, Nicolas Cagne, d'avoir été avec nous. On se retrouve donc pour une prochaine émission. Alors, la prochaine émission, elle est plutôt liée à quelque chose, à un thème sur lequel le législateur n'aura rien pu faire, contrairement à l'alcool ou au débit de tabac, c'est l'amour. À bientôt. Trapped inside myself.
desperate five in a jar.
Bonjour Isabelle. Alors, Keia Denao.
Bonjour Marie. Cette exposition des bars et des histoires, c'est aussi des dates d'animation, de rencontres, de soirées proposées par nos différents partenaires. Ces temps forts se font sur tout le territoire de la communauté des communautaires de Chalos. Alors les nouvelles. Eh bien, l'exposition des bars et d'histoires est montée. Elle n'attend plus que vous, dès que la situation sanitaire le permettra. En tout cas, nous espérons vous la faire découvrir à l'occasion de la Nuit des musées, le 15 mai prochain. Pour être informé de la programmation évolutive, consultez la page dédiée sur le site internet du musée de la Chalosse. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et courage à tous nos cafetiers confinés en Chalosse ou ailleurs.
Merci Isabelle.
Vous êtes bien dans l'émission Pays, Paysans, Paysages sur Radio MDM.
Merci à Anouk et Marie du Demi-Tour de France, à Nicolas Cahagne et à Radio MDM. Adi Chatz et à bientôt en Chalosse.
Pays. Paysans. Paysages.
Un tour au musée de la Chalosse.